Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Du 5 au 7 septembre, ça se passe au Oomph. Le jeudi 5 septembre, on célèbre le retour à l'UQAM dans une prog 100% présentée par Choc. Claudia Bouvette, Vandou, Kiroak et Kodak Ludo, OGB et bien plus encore. Un line-up 100% gratuit qui te fera sortir de chez vous pour t'installer sur la rue Saint-Denis. Viens tester le chilling spot par excellence, le Block Party et arrête-toi quelques minutes devant le mix bus présenté par la Coop UQAM. Du 5 au 7 septembre, les artistes les plus fresh en ville sont au Oomph. La prog complète se trouve sur oomph.ca.
Du 6 au 8 septembre, le Festival des arts de Ruelle sera dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Festival ultra multidisciplinaire avec plus de 150 artistes en musique, cirque, théâtre, danse et plus encore. Viens faire la fête dans Ruelle avec Bleu Jeans Bleu, Alpha Rococo, Bourbon, Maxime Auguste puis plein de belles autres personnes. Toutes les infos à festivalphare.com.
J'ai beau avoir du poil au cul.
MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, Nao et Tambour. Plus d'infos au mr63.ca.
What a dang! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble. Sur les ondes de choc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertium et tout ce soupir n'était qu'une représentation de mon grand du déploiement de mon âme face au retour estival de cette le retour. C'est un retour estival, c'est fini l'été?
C'est encore techniquement l'été, mais on peut dire c'est ça, on peut dire estival dans ce cas-là.
Je peux pas dire automnal.
Mais on est au début est-ce qu'on est au début de la saison d'automne? De choc.
Est-ce que tu te sens au début de la saison d'automne?
Moi, je me sens au début de la saison d'automne, mais la saison d'automne commence pas avant que les pumpkin spice latte reviennent, puis ça, c'est juste en fin de semaine.
Non, je pense que les pumpkin spice ont apparu aujourd'hui, en fait.
Ah ouais?
J'ai l'impression.
Shit.
Moi, je pensais que c'était les décorations de Noël qui annoncent l'automne.
J'ai vu des bas de Noël tantôt dans un magasin, fait que je pense qu'on est à la saison d'hiver.
C'est drôle, on a tous des différents repères. Moi, c'est l'agenda que je vais chercher à l'UQAM. La saison est officiellement commencée la rentrée aussi, quand j'ai mon nouvel agenda.
Bon, ben voilà.
Okay. Hey, faut que non, on fait un épisode sur les saisons.
Hein. C'est quoi votre saison préférée, gang?
Les tabarouettes, bonne question. Hélène, t'as-tu une opinion là-dessus?
Non, vraiment pas.
Clairement, l'automne, voyons.
L'automne, je suis d'accord.
C'est notre saison préférée parce que c'est là où on recommence pas par stock.
OK, j'étais content que tu dises pas qu'on recommence. Ben, en fait, recommencer l'école, c'est le fun. On a quand même une responsabilité en tant qu'intellectuel actif que de promouvoir l'idée de l'enseignement puis de l'école puis tout ça, puis de trouver ça
puis de modeler notre horaire au calendrier scolaire.
C'est très vrai.
Oui. Ouais. Mais là, c'est l'épisode 201 de
216.
216.
Ouais. La blague, c'est qu'il y a plein d'émissions qui n'ont pas été mises en ondes durant l'été à cause de moi.
Qui ont déjà été enregistrées, donc il y a des petites surprises qui attendent les auditeurs, auditrices à la maison. Mais là, en ce moment, c'est le 201e épisode officiel dans la liste.
Techniquement, oui.
Techniquement, ouais. Donc on a passé le cap du 200.
On fait-tu un George Lucas ou pas alors?
Qu'est-ce qui arrive après 200, Lucas?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 4, 5, 6, puis après 1, 2,
3. Ah, wow!
Ça pourrait être 216e, puis c'est pas grave si les autres sont pas encore sortis.
Ouais, on fait une trilogie.
Ça va être des prequels.
Exact.
Ouais, mais ça aurait été vraiment le fun qu'on soit comme il y ait un villain, là, il y a quelqu'un qui a viré un peu mauvais, ou peut-être au courant de l'émission, il y a quelqu'un qui a perdu une main, puis là, il faut que tu retournes les épisodes d'avant pour comprendre
t'as
pourquoi.
T'as encore possible?
C'est vrai.
Quelqu'un qui m'achète quelque chose, genre.
Non, je veux pas qu'on coupe une main, là, je veux juste... Je voudrais pas que ça se passe. Ouais, regarde. Ben, peu importe, on va laisser les choses se faire, puis qui sait, peut-être que...
Puis, Jim, t'es quand même correct, t'es de l'autre côté de la ville, donc t'as juste à te barricader, puis t'as des chances de se sortir indemne.
Je suis en sécurité. Je serai pas en sécurité bien longtemps, parce que je vais venir vous rejoindre. Bon, bref, c'est super le fun de vous retrouver, c'est super le fun de recommencer. Il y a comme une léthargie intellectuelle qui s'installe quand on fait Pop en Stock pour une longue période.
Parce que surtout dans nos vies à nous, là, j'ai l'impression que ça me garde moins alerte de pas faire les émissions. Mais ça fait quand même du bien prendre une petite pause, puis on revient en force maintenant pour plus de Pop en Stock.
T'as-tu eu des gens, toi, qui t'ont comme reconnu cet été?
Non, ça m'est pas arrivé.
Moi, oui.
Et toi, t'es une star.
Ouais, toi, t'es une star. Toi, t'es
ouais, star. L'un n'empêche pas l'autre.
You're my star. Non, c'est ça, j'ai eu du monde qui était comme, ah, shit, vous faites ça, continuez à faire ça.
Ah, ouais.
J'étais comme, shit, on continue à faire ça.
Est-ce que c'était comme, ah, vous êtes Jean-Michel Bertium, chroniqueur à Radio-Canada, ou ah, vous êtes Jean-Michel Bertium, animateur de Pop en Stock?
On n'est pas la même personne.
Pour vrai?
Oui, oui, non, c'est ça, c'est ça. Ouais.
Mais là, c'est vraiment mélangeant parce que vous avez le même nom puis la même voix.
Ouais, ouais, mais c'est pas, on n'est pas la même personne, vraiment. Non, c'est ça. On parle de quoi aujourd'hui?
Tu vois,
je peux clairement pas me retrouver à majorité avec ce type d'animation-là.
Mais c'est très Tarantino comme moment.
Oui, c'est ça, je pensais que ça ressemble au film qu'on va parler.
Exact, on parle pas de ce dont on est supposé parler, on fait juste dire de la bullshit, c'est parfait. Moi, je dis qu'on parle jamais du film, on continue à faire ça tout le long. Puis à la fin, il y a comme quelqu'un qui tue tout le monde, puis c'est ça.
Ah oui! Mais c'est une bonne idée, je pense qu'on pourrait faire ça. Ça va être comme un épisode conceptuel où on fait ce que Tarantino fait et non pas on parle de ce que Tarantino fait.
Mais moi, j'ai quand même aimé le film. Je sais que vous l'avez pas aimé.
Ah, mais Philippe, tu parles à l'inverse, là, tout d'un coup.
Ouais. J'ai plein
d'autres. Mais attends, c'est ça. Pour être plus explicite, c'est sûr qu'on parle de Quentin Tarantino, mais on va surtout parler de son dernier film, donc qui est sorti en salle cet été, donc le Once Upon a Time in Hollywood. Moi, je suis fraîchement sortie du cinéma en ce moment, là, c'est comme tout frais dans ma tête. Mais je pense que vous avez déjà des opinions sur le film. Okay. Fait que, on pourrait faire comme un tour de table un peu pour donner rapidement.
Est-ce qu'on change de chaise? Est-ce qu'on fait comme un...
On va partir à la musique, puis quand la musique arrête, il faut que tu t'assoies.
Non, je veux pas de cette manière-là, là, mais je veux dire, à l'idée d'une table ronde, tu sais, comme on les met d'un camp, d'un bord...
Les pour et les contre.
C'est ça, le spectre de l'appréciation du film.
On fait le débat.
Ça va être tough, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mais.
Je pense que je vais être tout seul de mon côté.
Ben, c'est ça. Non, puis moi, je prévois un espèce de débat assez...
Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Je comprends pas.
C'est ton sourire. Ce sourire-là veut dire « I came here to mustiner.
» Oh yeah, and I'm all out of bubblegum.
Mais bon, mais ouais, Megan, toi, tu vas distiller le 3 heures pendant 7 heures. Tu vas prendre une heure de plus.
Ouais, c'est ça. Là, c'est une journée, ça va être une journée Once Upon a Time in Hollywood. Là, donc, je suis immergée complètement dans le sujet en ce moment. Puis, c'est ça. Fraîchement sorti, ma première réaction, c'était « Oh mon Dieu, c'est tellement long! » Mais la fin était bonne.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui l'a trouvé long?
Je peux comprendre, mais c'est pas quelque chose que j'ai ressenti.
OK.
Non.
Moi, j'ai pas trouvé long.
Moi, je
m'amusais
vraiment beaucoup, là.
Non, j'ai pas trouvé long. Il y a un moment donné dans le film où je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait là.
Ouais.
Mais j'ai eu des interrogations pendant le film, mais je l'ai jamais trouvé. Les films Tarantino sont toujours très longs, puis je les trouve jamais longs.
Ouais.
En fait, le film que j'ai trouvé le plus long à la première écoute, c'est son film le plus court. Hein. C'est Death Proof. Je l'avais trouvé vraiment long.
Oh, ouais.
Je l'ai réécouté, puis depuis, je l'aime beaucoup maintenant, je le réécoute régulièrement, mais la première fois, je l'avais trouvé long, surtout quand ça recommence, puis t'as comme, ça. OK, on a encore 5 personnes qui vont dire de la bullshit pendant une demi-heure.
Okay. Ah oui, puis c'est ça, ouais. Puis t'as vu la version longue.
Non, j'ai vu la version courte, mais
la version
courte
était longue?
La version courte était longue parce qu'elle était tout de suite après Planet Terror, puis Planet Terror, t'as comme une espèce de... C'est over the top, t'as un gros crescendo, puis là t'arrives ça ou comme c'est comme autre chose. Là.
Mais je pense que Tarantino a beaucoup de talent pour le court, tu sais. Je pense que il réussit bien le long justement.
Ouais, non, c'est vrai que My Friend's Wedding, son premier film étudiant, qui est comme c'est le truc le plus disponible de lui dans ses premières œuvres, c'est le fun. Puis même ses segments. Ben, non, son segment de
The Four Rooms, c'était le fun.
C'est vraiment bon.
Ouais.
C'est ça, jusqu'à un certain point qui est bien, c'est que c'est plein de segments, donc ça fonctionne très bien en étant long. Mm. C'est que c'est ça se construit un peu en casse-tête, puis petit à petit on place les choses, c'est pas en soi un problème.
C'est vrai ça.
Mais c'était plus au plan des scènes que je voulais dire au fond. C'est-à-dire qu'il réussit très bien les scènes très longues.
Ouais,
ouais.
Puis un film court le rend moins bien parce que forcément il y a un rythme qui est pas, qui permet pas d'avoir des scènes aussi longues.
Mais c'est ça, tu peux pas faire un film de 1h20 où il y a une scène de 40 minutes. Sauf.
Pourrait, mais ça va moins.
Ouais, le moins Hunger, bien. Genre, que tabarnak. Ouais, ouais. Le film de Steve McQueen.
Oui. Oh oui. Mais c'est vrai que cette scène-là est extraordinaire. Ouais.
Toi, comment tu t'es senti, Boris?
Pendant le film?
Ouais.
Extrêmement déçu. Pas parce que c'était pas bon, mais parce que c'était pas assez bon. Dans le sens que je... mais, non, mais dans le sens que je lui donne vraiment la note de passage. Là. En tout cas, c'est la note que j'ai voulu lui donner quand je suis sorti du cinéma. Alors que moi, je suis un grand fan de Tarantino. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je comprends ses détracteurs, mais moi, c'est comme c'est mon genre de film que j'aime. Les films qu'il fait. Et souvent, comme je disais, souvent c'est arrivé que j'aime. Des fois, j'ai été déçu, déstabilisé. Puis plus j'écoute ce film, plus j'ai du fun. Jackie Brown, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié à la réécoute. Django aussi. Il y a quelque chose dans ces films qui est un peu déstabilisant. Tu sais, comme Django, t'as le gros crescendo, puis après, t'as encore une demi-heure de film, puis t'es comme, what the fuck. Mais c'est quand tu le revois, t'es comme, ok, je vois ce qu'il essaie de faire. Puis, mais là, j'ai comme, je l'ai pas revu, mais j'ai pas l'impression que que ça va faire la même chose avec Once Upon a Time in Hollywood parce que. J'ai comme je trouve que c'est un peu raté ce qu'il essaie de faire.
Ou l'inverse, peut-être que c'est drôle parce que c'est la première fois en sortant de la salle, moi pour suivre qu'est-ce que tu dis, c'est la première fois que je ne voulais pas le revoir. Un Tarantino, normalement tu le vois puis tu fais ah, quand je vais le revoir, je vais porter attention à ça. Puis là je suis sorti puis j'ai fait ah, je l'ai vu, ça va, c'est correct. Mais je me suis fait un peu prendre au piège en disant je vais le réécouter, voir s'il y a quelque chose qui ressort à ce qu'on écoute.
Ah, moi aussi, là, c'est comme sans du tout vouloir être chien en disant ça. C'est un peu comme Phantom Menace, dans le sens que tous les fans de Star Wars, moi qui ont vu Phantom Menace, il fallait qu'ils le revoient pour être sûr que c'était pas bon. Mais là, je veux pas dire comment tu vas dans In Hollywood, c'est aussi mauvais que Phantom Menace. Je veux juste dire que c'est comme, il faut que tu le revois juste pour être sûr que c'est pas aussi bon que ce que tu pensais, que ça a l'air. Ouais. Ou que genre, que le standard, tu sais, moi, tous les films de Tarantino dans mon livre à moi, c'est des 4 ou plus sur 5.
Ben, c'est ça, on a quand même une attente un peu plus élevée avec Tarantino qu'avec George Lucas en moyenne. J'adore Star Wars.
On s'entend. On s'entend.
Mais comme réalisation, j'ai vraiment très
apprécié. L'accueil critique de ce film-là a été incroyable. Ouais, les critiques ont adoré. Après ça, il y a eu des bémols, mais comme la première réception, Once Upon a Time.
Ben non, c'est vrai.
Ouais, ben, bonne joke.
Mais même encore sur Metacritic, c'est à 83%. Là, c'est quand même assez fort, en absolu. Puis même, je pense sur IMDb, il est encore dans le top 250.
Ouais,
donc,
mais on peut pas aller chercher.
Non, je sais que c'est qui va disparaître. IMDb, c'est pas très fiable, mais.
Toi, Hélène?
Moi, sur le coup, j'étais assez déçue. À force d'en discuter un peu avec tout le monde, j'ai envie de le revoir. Genre, j'avais pas du tout envie de le revoir après. Donc, déjà, c'est pas mal, mais ce que j'ai trouvé plus décevant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas assumé jusqu'au bout son projet, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas été juste... Il a pas osé faire ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire aller jusqu'à nous déstabiliser complètement, aller jusqu'à... Tu sais, je pense que son projet était presque trop confortable pour lui. C'est comme un univers qu'il connaît trop bien, qui est comme trop... Il était trop à l'aise dans tout ça, puis j'ai l'impression qu'à cause de ça, lui-même s'est pas mis en danger, puis à cause de ça, nous-mêmes, on suit pas tant. Parce que... Puis en l'écoutant après en parler aussi, qui disait « Ah, j'ai pas voulu me mettre dans la tête de Charles Manson, je veux pas aller là dans ma vie. » Puis je suis comme « Ouais, mais tu sais, pour faire de l'art, faut que t'ailles où tu veux pas aller aussi. » Puis je comprends son point, mais d'abord, fais pas un film sur Charles Manson.
Mais c'est quand même drôle qu'il ait dit ça, alors qu'il s'est mis dans la peau de gens terribles.
Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on dirait que soudainement, sur ce projet-là, il a pas osé d'y aller.
T'sais. C'est ça.
Ouais. C'est drôle parce que ça aussi, je trouve que c'est un point très important, ce que tu soulèves, c'est qu'on dirait que le film, il ne pouvait pas, ou du moins le climat actuel, culturel, ne lui aurait pas permis d'aller où il devait aller. Comme pas de représentation de Manson, pas de représentation de Polanski, pas de... Tu sais qu'il y a toujours des espèces de... Ah, si je vais trop loin là, je vais me faire ramasser, je vais trop... Mais non, au final, ta question est bonne. Pourquoi tu l'as fait?
Mais je pense...
C'est sûr que lui-même a assimilé ça, que je peux pas faire ça.
Ben,
moi, je suis vraiment pas d'accord
avec ce que tu dis. C'est ça que je veux dire.
Oui, mais lui-même, pas tant dans sa façon. Tu sais, je pense qu'il a assez confiance en lui pour pas partir de l'idée que.
Exact. Bon, Tarantino se met tout le temps en danger. Tu sais, il y a aucun problème de dire nigger tout le temps. Tu sais, il vole là. Tu sais, il a fait en femme sur quoi?
Mais pas là.
Mais justement, mais je pense pas que c'est ça qu'il a retenu. Je pense que je pense qu'il s'est pas retenu. Je pense qu'il est allé all in, mais il s'est un peu comme il a trébuché puis il s'est un peu comme pogné un escalier de 250.
Il y a juste quelque chose ici parce qu'on dit que c'est un film sur Charles Manson, mais c'est pas tellement un film sur Charles Manson. Et parce que je pense que l'affaire aussi c'est qu'il y a comme un clivage où on est habitué à beaucoup de violence de sa part. Mais Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film d'amour que Tarantino a fait pour sa passion première, c'est-à-dire le cinéma, puis cet âge-là du cinéma. Puis ça paraît beaucoup parce qu'il y a énormément, il y a un aspect énormément nostalgique qui ressort de tout ça. Les longues les scènes où on voit Brad Pitt qui conduit dans LA, puis on entend la musique, puis comme toute la trame sonore qui a été construite de façon très, très nostalgique là, pour comme mettre des petits indices. Là. C'est un film de Easter egg. Il y a des caméos partout dans les enregistrements qui ont été refaits. Fait qu'il y a comme un clivage au sens où c'est un film qui voulait pénétrer cette violence-là qui a été les massacres de faits par Charles Manson Family. Mais il voulait aussi faire un hommage à cet Hollywood-là que c'est comme une espèce de make Hollywood great again. Fait que
mais c'est la fin, parce qu'en 1969, c'est la fin du Hollywood.
Exactement. Puis Tarantino est né en 1963, il avait 6 ans quand c'est arrivé, puis c'était comme sa plus grande passion, puis c'est comme ça s'est assombri rapidement dans sa vie à lui.
Oui, mais en même temps, c'est à partir de ce moment-là, ben, ou du moins on considère que le grand du cinéma des États-Unis c'est à partir de 1968-69, Easy Rider, Texas Chainsaw Massacre.
Oui, clairement, puis il y avait une pureté, comme une simple joie. Il n'y a pas du tout comme de deuxième degré dans certains films de l'époque. Bon, ça, il y avait déjà été une fois dans l'Ouest qui jouait quand même avec ce qu'il y avait déjà eu du western, mais il y avait beaucoup de pureté puis un simple plaisir des scènes d'action et tout, qu'on n'a plus de temps aujourd'hui dans le cinéma. Aujourd'hui, quand on a ça, justement, on a Tarantino qui joue avec un second degré de l'hommage et tout.
Mais c'est aussi, c'est ça ce qui a fait un film nostalgique, mais peut-être qu'il y a un second degré dans cette nostalgie-là, au sens où on essaie de revenir à une époque un peu imaginaire, parce que c'est pas seulement comme ça que ça se passait, là. On sait pas, on n'était pas là. Je sais pas pour vous, mais moi j'étais pas là.
Mais justement, comme c'est la fin d'une époque, mais ça l'est plus finalement, parce que là, t'as les stars déchues de l'ancien Hollywood qui viennent sauver le nouvel Hollywood, puis qui finalement perpétuent. C'est un film que je trouve extrêmement rétrograde à cause de ça.
Ouais,
parce
moi, c'est ce qui m'a énervé à la fin.
Parce que c'est un peu la réécriture de l'histoire, mais comme aussi du cinéma, ce qui fait que le nouvel Hollywood va jamais avoir lieu, tous ces films-là,
C'est-tu toi, Hélène, qui disais que toi, t'aurais voulu que les deux gars meurent?
Ah oui, absolument. Ouais. Moi, je trouve ça assez étrange, parce qu'on dirait que c'est là qu'il a pas assumé, en fait. Parce que, en fait, ça m'avait fait penser en t'écoutant, justement, Radio-Canada sur...
C'était pas moi.
OK, à ton doppelganger, alors.
Exactement.
OK. Puis qui me fait justement rebondir sur ton idée de Once Upon a Time in the West, qui est intéressant parce que c'est un film sur la fin d'un monde. Tu sais, le Once Upon a Time, il est ironique. C'est pas le début d'un conte, c'est la fin d'un monde. Puis dans Once Upon a Time in Hollywood, j'ai l'impression que Tarantino, c'est le vieux cowboy qui veut pas mourir. Tu sais, c'est qui veut pas laisser la place justement à cette nouvelle génération, à ce renouvellement, puis en plus qui passe par les femmes dans Once Upon a Time in the West. Tu sais, c'est après la frontière, c'est les femmes qui vont établir la société, qui vont construire. Puis là, ben, en voulant tellement sauver Sharon Tate, parce que c'est tellement ça son but, pas de problème, c'est pas être une bonne idée. C'est-à-dire, mais après, il faut assumer que ce monde, que t'as fait un film sur un monde qui finissait, ben, faut que t'assumes que ce monde-là finit.
Faut que tu le laisses mourir.
Je pense que chez un certain point, il veut faire comme un peu un Neverland, une sorte d'atemporalité où il travaillait presque plus l'imaginaire d'Hollywood, et c'est pour ça qu'il a fait justement une happy ending. Alors que Tarantino n'est pas tant ça, mais on a vraiment, jusqu'à une certaine manière, le format. Il joue beaucoup entre la frontière entre la fiction et la réalité, ne serait-ce que les moments où on a le cascadeur qui fait presque aller dans le western que le comédien lui-même est en train de mettre en scène. Donc on a sans arrêt ce jeu-là. Et pour moi, c'est là où la fin était quand même très logique. C'est une pure fin hollywoodienne comme on l'a appris depuis longtemps.
C'est une fin générique.
C'est une fin générique, mais on est dans l'imaginaire d'Hollywood. C'est ça qui nous a fait jusqu'à un certain point. Et c'est là où c'est une fin très pure, très on a exactement ce que le personnage voulait à la fin, et c'est ce que Hollywood nous a quand même habitué jusqu'à un certain point. Walt Disney, c'est encore ça.
Oui, mais c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que ça rajoute à toute l'ambiguïté morale qui est autour de ce film-là. Tu sais, ce que tu dis, Hélène, concernant, comme je suis d'accord, là, ça aurait dû mourir. J'ai lu des critiques un peu avant de venir à l'épisode, parce que je trouve que c'est très juste comme image. Là. Ça finit comme les messieurs là, qui disent « Ah, ben tu sais, moi, si j'avais été là, ça ne serait pas passé de même, puis j'aurais arrêté le tueur, puis j'aurais sorti, j'aurais lancé mon pitbull sur eux autres. » Ouais, c'est ça. C'est comme, ça finit comme ce d'idéal-là de monsieur qui veut sauver justement Sharon Tate en détresse, qui n'a pas une ligne dans le film.
Ça, c'est Tarantino?
Non, mais c'est ça rajoute à l'ambiguïté morale, parce que de prendre une fin générique, c'est un peu une fin conceptuelle, si on veut. Là. Donc, on essaie de faire un film hollywoodien à la vieille sauce Hollywood avec une belle fin, et puis tout le monde est heureux. Mais ça implique que ce soit cet imaginaire-là qui gagne à la fin, cet imaginaire-là macho, qui traverse beaucoup des films de Tarantino, puis qui fait pas exception aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Fait qu'il y a comme... si vous voulez une belle fin, faut que les hommes gagnent.
Les hommes tueurs de femmes.
C'est ça, parce qu'en plus.
Ou peut-être pas, ou peut-être, je sais pas. Mais ça aussi, c'est comme, t'as des flashs comme ça, comme la manière qu'il représente Polanski, puis les commentaires par rapport à Polanski, puis le fait que, genre, Brad Pitt a peut-être ou peut-être pas tué sa femme. Pourquoi tu vas là, tu sais? Pourquoi tu fais comme, on sait pas, on dirait que, genre, il se positionne par rapport au MeToo, puis par rapport à ces scandales-là, mais d'une manière un peu étrange.
Ça, c'est aucun doute.
Ben, il n'y a pas le choix. C'est son premier qui n'est pas produit par Harvey.
Ben,
même s'il l'abordait pas, ça, c'est présent dans l'œuvre.
Ouais, sauf que on dirait qu'il prend pas. On dirait que c'est comme des petits clins d'œil, mais qui prennent pas vraiment position, qui sont là juste pour comme faire des jokes de mon oncle, un peu comme la joke de ah ouais, la violence nous influence, c'est la faute des films. Tu sais, genre, on dirait que c'est juste comme une pique lancée à travers les critiques de Tarantino, puis c'est un peu à la fois facile, puis lâche. Je trouve ça lâche.
Qu'est-ce que Lena dit? Il y a pas de courage derrière qu'est-ce qu'il est en train de faire.
Je pense que c'est tout à fait ça.
Moi, je pense qu'il est tombé en amour avec ses personnages, puis il a pas osé les tuer. C'est presque ça quand tu l'écoutes parler de ses personnages. Puis c'est comme, je sais que Brad Pitt aurait dû mourir, mais je voulais vous surprendre.
Ouais, c'est pas une excuse. Mais c'est surtout que, tu sais, il a dit qu'il savait la fin dès le début. Puis que là, il a dit, il faut que je mérite ma fin. Mais il a pas mérité sa fin, parce qu'il y a pas de build-up vers cette fin-là. C'est comme, t'as deux films, t'as la fin qui a écrit, puis après ça, il a fait ses personnages, puis il est tombé en amour, puis là, on les suit, puis puis là, finalement, comme, ah oui, c'est vrai, faut que je tue Sharon Tate.
Ou pas.
Je pense que c'est plus cette fin-là qu'il avait déjà prévu.
Non, c'est ça, moi aussi.
C'est plus la fin que je veux sauver Sharon Tate.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, cette finale-là, où il réécrit l'histoire de Sharon Tate, on dirait qu'elle est juste pluguée là parce que c'était son point de départ, mais que finalement, le film va pas là du tout.
S'il s'était laissé l'opportunité de réécrire la fin pour être cohérente avec ce qu'il a bâti ensuite, toi, t'en es pas. Ouais, c'est vrai.
Aussi, j'ai quand même énormément aimé le film, mais la fin, je la trouvais trop facile aussi dans mesure où il rush absolument pas. Je veux dire, le chien attaque toutes les hippies. On sent pas qu'ils sont en danger nulle part, puis ça, c'est dommage. Tarantino nous a habitués à avoir des archétypes très forts qui luttaient contre leur vie. Je pense à, mettons, Tubil, qui est mon préféré. Je veux dire, elle en arrache et tout. On n'est jamais très content, en spectateur, d'avouer ça, mais ça rend le film meilleur.
Il gagne sa fin. Là.
C'est ça, vraiment. T'es content à la fin quand Bob Bill, désolé pour les petits vulgarcheurs, mais.
C'est dans le titre.
C'est ça, on espère que ça va. Je me demandais si elle arriverait à le tuer, justement, avec un truc comme ça. C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais c'est ça, elle en arrache, elle est tellement abîmée. Je me rappelle juste son entraînement où elle doit taper sur une barre de bois, puis elle la met en sang. Mais j'ai tellement pas ressenti ça là-dedans. Ça, je trouvais ça dommage parce que Hollywood nous a quand même appris ça jusqu'à un certain point.
Puis moi, c'est drôle parce qu'il y a eu un moment où, c'est peut-être à cause de la présence de Leonardo DiCaprio, mais à la fin, j'avais les flashbacks de la Yellow Acid de Wolf of Wall Street. Parce qu'il y a quelque chose qu'on prend pas en considération sur cette finale-là, c'est qu'il est pété. Il est complètement pété sur la liste à ce moment-là. Puis si tu mets en juxtaposition la scène où Leonardo se bat avec un téléphone, en train de baver, couché sur une moquette, et Brad Pitt qui est juste comme en train de rigoler en pitchant des cannes de Chef Boyerly bar à bord de son appartement.
Plus à la fin d'un monde pour vrai. Là.
C'est ça, tu sais, j'étais comme, mais il faudrait que tu y mettes une affaire de. Il y a comme un peu les pieds dilatés, puis il y a un peu la misère à croire que c'est dans le passé. Il y a peut-être un moment où il dit.
Ouais, quand il fait le fusil avec sa main, c'est quand même genre. Le oui. Tex, là, il pointe son fusil sur lui, puis il fait juste comme un finger gun, puis il se met à rire.
C'est ça, c'est
comme, mais c'est pas assez, tu sais.
Ben, c'est vrai qu'on pourrait enlever comme la scène où on apprend qu'il fume un cigare à l'acide, une cigarette à l'acide, puis ça enlèverait rien à la scène.
Ouais, moi, c'est juste, j'étais comme, ouh, c'est vrai qu'il est pas allé.
C'est ça, c'est ça. Moi aussi, on est tous comme, ah, ok, ça va être quelque chose de complètement pété.
Ben, ça l'est quand même.
Ça l'est pété, mais.
Mais pas du côté de Brad Pitt, parce que comme vous disiez, il a tellement l'air en
contrôle. C'est de violence. Qui est à la fois, qui se veut à la fois cathartique et très divertissante, parce que c'est comme ça que Tarantino conçoit la violence comme un divertissement. Ben, les, tu sais, moi, j'ai pas envie de prendre compte ces personnages-là, parce que je les ai pas, tu sais, ils sont un peu brainwashed par la Manson Family de ce que l'on sait, puis on n'a pas appris à les haïr, tu sais.
On
n'a
pas, ça.
On le sait pas dans le film.
Ouais, ouais. Ben, on le sent un peu dans la scène du ranch, tu sais, on les voit, ils ont l'air un peu space, mais là.
Mais finalement, ils finissent par être plutôt sympathiques, tu sais, ils s'occupent du rancher, je veux dire. Au bout du compte.
Il y a une espèce d'inquiétude quand même.
Oui, mais quand le ton vient de nous, qui vient du fait que nous, on sait que c'est la family, mais.
Mais c'est présenté.
Est-ce que c'est dans le film?
Mais c'est quand même, il y a quand même une aura de cinéma d'horreur durant cette scène-là. Même, j'étais quasiment déçu qu'il se passe à ce point-là rien parce que justement, ça vient pas justifier des moments. Je trouvais cette scène-là incroyable jusqu'à temps qu'elle finisse. Et là, tu fais justement genre, you, mais c'est sûr que là, ça revient un peu à ma dichotomie de la réalité et la fiction. Là, on est vraiment dans de la réalité. Justement, il se passe rien de merveilleux, justement, là-dedans. Ça, je trouvais ça assez génial.
Ouais.
Mais c'est là où je trouvais que la fin allait pas du tout avec tout ce qu'il nous avait montré tout le long.
Il y a rien dans le film qui nous fait, qui nous montre que c'est 3-4. C'est les 3 qui rentrent à la fin.
Les 3 qui
sont reliés au ranch.
Non, c'est ça.
C'est pas. Pis...
Bon, on comprend que c'est des hippies, là. Mais c'est.
Ben, mais tu complètes avec ce que tu connais de l'histoire.
On les reconnaît aussi.
Oui, c'est ça. Y a...
Les personnages étaient dans le ranch.
C'est ça. Oh, ouais, mais il n'y a pas de.
On comprend pas la motivation.
C'est ça, le gars qui est venu cogner à la porte, que je fais tendance que je me suis trompé, puis qui revoit Sharon Tate du coin de l'œil. Nous, on le complète parce qu'on a une connaissance fondamentale de l'histoire et des grosses, grosses, grosses lignes de l'histoire. Mais dans le film, c'est juste comme... si on faisait une lecture structuraliste, ça rusherait.
J'irais plus loin. La seule raison pour laquelle il y a cette fin-là et qu'elle fonctionne, c'est parce qu'on est dans le film de Tarantino. Je veux dire, on attendait toute cette fin-là. Je veux dire, moi, j'avais déjà lu des critiques et je savais que la fin, les 15 minutes, allait être du Tarantino. Donc, je l'attendais.
Ouais.
Mais sinon, je veux dire, elle fonctionne pas du tout avec le reste de l'esthétique. Le reste du film, pour moi, est pas tant un film qui rappelle Tarantino. Évidemment, il y a la référentialité, comme tu parlais tout à l'heure, Boris. Il y a des trucs qu'on peut reconnaître. Mais on n'est pas dans un film comme un peu casse-tête dans le désordre. On n'est pas tant un film où il y a tant de violence jusqu'à là.
Mais Tarantino, c'est pas toujours de la violence, tu sais. Pulp Fiction, il y a des scènes comme où la violence est présente, mais tu sais, si tu prends dans l'ensemble du 2h40, Reservoir Dogs, même la scène de l'oreille, tu la vois pas, tu sais. Il y a une violence qui est présente, mais
c'est ponctuel, c'est pas Inglourious Basterds puis la scène du bar.
Quand je parlais de violence, je parlais aussi de build-up, de setup puis de tension qu'on a pas tant.
Mais il y en a dans le ranch.
Oui, il y en a. C'est là où il y a quelques scènes où c'est vraiment, à mon avis, très réussi.
C'est une violence structurelle dans ces autres films qui n'est pas là.
Non, c'est ça.
La structure est assez romantique, en fait.
Oui, tout à fait.
Ouais, mais c'est drôle parce que moi, je l'ai vu avant la possibilité de lire une critique, puis ça a fait en sorte que pour moi, la tension dans le film, c'était est-ce qu'il va réécrire l'histoire ou pas. J'étais comme,
on s'en doute. Moi, j'avais pas lu les critiques avant d'aller voir le film. J'avais entendu des échos, là, mais puis je me disais, tout le long, il va nous refaire à Inglourious Basterds.
Mais moi, en spectateur naïf, j'étais comme, il l'a déjà fait. Il a déjà réécrit l'histoire.
Pourquoi il
le massacre de Hitler? Peut-être que c'est ça la ligne sur laquelle il essaie de nous faire. C'est est-ce qu'il va réécrire l'histoire ou pas? Puis dans cette mesure-là, elle fonctionne. La tension. Puis c'est pour ça que j'étais super récalcitrant de parler du dernier 15 minutes. Parce que le build-up du film est là.
Ouais, mais je sais pas à quel point on est dans l'Uchronie, dans la mesure où. Tu sais, Hitler, c'est une personne. On a tout le monde a l'impression, en tout cas, toute la fiction du 20e siècle depuis, a créé Hitler comme l'espèce de point de bascule de l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mort ou pas est toujours ce qui va changer l'histoire de l'univers.
Ouais, dans les récits de voyage dans le temps, c'est comme, est-ce que tu irais tuer Hitler?
Tout le temps.
Est-ce que tu ramènerais à vie puis on serait dans une Uchronie, ça irait très mal.
C'est le seul point de bascule de toute l'histoire de l'humanité. Mais Sharon Tate, pas du tout. C'est comme plus l'innocence qu'il veut sauver. C'est pas... personnage historique, tu sais.
Mais parce que plus tu dis pas... dans l'imaginaire hollywoodien. Encore une fois, j'ai quand même écouté quelques podcasts, les deux que vous aviez partagés, qui étaient très intéressants. Puis apparemment, ça vient dans toute l'histoire d'Hollywood. On en parle systématiquement comme un pivot.
Ouais,
c'est sûr que c'est pas important l'histoire globale, mais l'histoire de l'imaginaire hollywoodien. Puis c'est là-dessus qu'est quand même le film.
Ouais.
jusqu'à un certain point, j'avais un peu l'impression d'être comme dans From Hell, dans Dolmore et Campbell qui parlent de Londres, ouais. Mais là, j'avais l'impression qu'ils parlaient d'Hollywood. Ouais. Peut-être moins réussi, là, From Hell est mon préféré, mais c'est ça, j'avais l'impression que tout était là-dessus, et même qu'il s'amusait lui-même à retravailler ses matériaux. Comme j'ai l'impression qu'il y a des scènes dans le film, et j'ai même fait l'exercice, là, de chacun de ses films précédents.
Ah oh ouais.
Notamment, si vous voulez, je peux le faire très rapidement. Là. C'est quelque chose que je me suis amusé à faire en me disant, mais écoute, parce que le film est quand même très lent par moment. On est vraiment dans la contemplation.
Tu non. sors un carnet.
Non, c'est ça, tu peux t'amuser beaucoup. Mais c'est ça. Il y a vraiment quasiment un retour en arrière qui est fait. Bon, vraiment, avec les deux derniers westerns, je pense que c'est assez évident. Ouais. Il y a différentes manières, c'est ça, notamment. Il était une fois dans l'Ouest qui apparaît dès le titre. Inglourious Basterd, qu'on a dès la scène des nazis avec le lance-flamme du début, qui est l'ensemble qui va être réutilisé. Ouais. Ensuite, évidemment aussi la dimension iconique qu'on a déjà parlé, qui comme, est-ce qu'il va le refaire et tout. Ensuite, Boulevard de la Mort, ça c'est tout ce qui est l'esthétique de la série B. Il avait déjà commencé évidemment à travailler ce qui était série B, mais à ce point-là, jouer sur l'esthétique, il fait énormément dans le film encore. Ne serait-ce que quand on voit la grosse TV sur un grand cinéma, c'est quand même le fun.
Ouais.
Ensuite, le cascadeur puis la scène du pouce qu'on a, mais ce coup-là n'est pas du tout inquiétante, contrairement à ce qu'elle peut être dans ce film-là.
Ben, ça dépend de ton point de vue, là. Je trouve ça inquiétant.
Oui, ça peut être inquiétant, mais je veux dire, ça a moins une fin négative avec
non, non,
la
mais
mort.
Je parle en tant que femme, comme moi, j'aimerais pas ça faire du pouce. Je trouvais ça un peu creepy que comme une jeune fille comme ça décide de comme.
Oh. Ouais.
Il y avait des motifs.
Ça se faisait.
Il y avait une pureté, on dirait, à cette époque-là, justement, qui est comme le fun. Là. L'époque où les églises étaient ouvertes puis on pouvait aller dedans.
On va encore rentrer dedans.
C'est ce qu'on veut plus. Parce que les monstres sont à l'intérieur. Ah, quoi.
Oui, c'est ça qu'on va digresser. Kill Bill, la scène d'art martial avec Sharon Tate, qui peut vraiment rappeler ça. Puis la scène où c'est le comédien qui détruit tout dans la roulotte.
Ouais,
il rappelle
ouais.
vraiment la scène où il combat. Jackie Brown, qui peut, ne serait-ce qu'avec la série TV FBS, si j'ai plus d'entendre, parce que je l'ai juste vu une fois, c'est
ben,
ça.
Je le lis pour Jackie Brown. C'est la même ouverture.
Okay.
Les pas et le traveling latéral okay. sur des. C'est le même. C'est le même début.
Ok, ouais. Génial.
Ouais, j'aime beaucoup Jackie Brown.
Pulp Fiction, ça, j'ai quand même un peu plus vu. Il y avait notamment la scène de dénouement. Qui est quand même assez cadavre à la vente, qui rappelle un peu Pulp Fiction, certaines scènes, la présence de la drogue. Là, c'est assez différemment, ouais. là, mais. Puis l'arme cool, qui est choisie le moment où il peut choisir toutes les armes, puis la scène Flamethrower, vous avez vraiment pensé à ça. Comme c'est quoi l'arme qui est plus cool que tout ce que j'avais à l'heure de la katana, c'est le Flamethrower. Et le rythme dans la résolution du duel, qui est quand même assez récurrent dans tout son œuvre, il y a presque toujours un moment où il y a un duel, puis une tension qui est faite. Là, il est presque tourné à l'humour, ce qui est assez spécial, là, mais il y a quand même une tension dans cette scène-là. Puis Réservoir d'or, ben, tout ce qui est l'ordre du braquage avec les hippies finales, le traître et même le chien qui attaque alors qu'on voyait dans le titre. Enfin, je me suis vraiment amusé, là, mais il y a plein de petits moments comme ça. On a vraiment l'impression qu'il a montré tous les matériaux dans le fond de sa jeunesse, dans le temps où il travaillait dans un club vidéo.
Puis il aurait fait ça.
Il a remontré ce qu'était quoi pour lui Hollywood, c'était tous ces matériaux-là.
Est-ce que c'est pas peut-être une façon aussi pour lui, là, je troll un peu, là, mais c'est pas, c'est pas une façon un peu pour lui de s'inclure lui-même dans ce grand Hollywood-là?
Ben, je veux pas vous interrompre dans votre folle virée, mais Tarantino fait ça depuis toujours.
Ouais,
il refait le même film. Il refait toujours le même film.
Oui, mais là, il parle d'Hollywood.
Oui, oui, oui. Mais moi, je trouve qu'il parle plus d'Hollywood dans Inglourious Basterds que dans ce film-là.
Ben,
il dit d'une manière plus intéressante.
Ouais.
Il y a vraiment quelque chose à dire sur le cinéma d'Inglourious Basterds. Alors que je trouve pas qu'il y a quelque chose à dire. Il y a juste, hey, tu te rappelles-tu quand.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Inglourious Basterds parle plus du cinéma. Once Upon a Time in Hollywood parle plus de Hollywood.
C'est ça.
Inglourious Basterds parle pas vraiment de Hollywood.
C'est vrai.
Il parle pas vraiment de cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est la télé qui est au centre plus qu'autre chose. Hein.
C'est vrai. Mm. Ça serait, c'est intéressant ça, comme œuvre crépusculaire. Oh, la transition à part du cinéma à télé.
Ouais.
Parce que pour moi, le grand moment de désuétude du personnage de Leonardo DiCaprio, c'est dans la conversation avec la petite. Qui dit comme, non, dude, tu peux pas juste rentrer, wing it. Faut que tu étudies, faut que tu travailles. Puis ça, c'est comme le Hollywood qui a disparu. Après l'époque des années 70, c'est devenu les réalisateurs, auteurs, étudiants, Cronenberg, Robert Zemeckis. Ouais,
c'est la méthode qui est arrivée, là.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Fait qu'il y a comme. C'est vraiment la petite fille qui est la fin de cette gang-là.
C'est personnage en plus, là.
Ah ouais, c'est de loin la meilleure scène du film, à mon avis.
Absolument.
Je suis assez d'accord.
Ouais. Puis en plus, il paraît que dans la série télé dont tu parles, dans le film, j'ai juste entendu parler, mais que le personnage féminin, en fait, était supposé être une femme majeure, là. Puis il l'a changé pour en faire une petite fille. Puis je trouve ça assez intéressant parce que c'est de loin le personnage d'enfant le plus jeune, puis il y a vraiment... Il y a tout un rapport entre la jeunesse dans le film qui est hyper intéressant.
Là, ben,
la vieillesse versus la jeunesse, mais qui se joue de tellement de manières différentes. Puis là, le fait qu'il ait été vers une enfant qui est vraiment une vieille âme en même temps, une espèce de... Elle incarne à la fois la sagesse et le renouveau, alors que Sharon Tate, on sent pas qu'elle incarne la sagesse ou l'expérience ou même une réflexion quelconque sur le jeu. On sent que...
C'est le plaisir.
C'est le plaisir du cinéma.
C'est ça, elle incarne vraiment la starlette bubbly qui se balade dans Hollywood. Elle incarne pas le jeu puis toute cette nouvelle génération-là qui va comme aller approfondir le jeu, qui va...
mais il y a quelque chose de beau de elle dans la salle qui se regarde jouer. Qui est contente de se voir jouer.
Puis qui est contente quand elle entend des gens rire.
C'est pas forcément négatif.
Non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison.
Il y a un côté, tu sais, Hollywood est quand même construit autour de cette image-là de la starlette, mais qui est quand même assez ancienne. C'est-à-dire qu'elle ne renouvelle rien du tout. Oui, c'est sûr qu'elle est jeune. On a l'impression que c'est la nouvelle génération, mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce qu'elle ressemble au fond aux stars des films noir et blanc, puis même du muet avant, tu sais.
Ouais.
De ces espèces de American Sweetheart, de Mary Pickford, puis de toute cette époque, au fond, où il y a cette légèreté-là dans le personnage qui se regarde jouer, qui se plonge pas dans l'espèce de noirceur après qui va peut-être apparaître dans la...
Qui se rend même pas compte qu'elle a failli mourir, tu sais. Ouais. Elle s'en rend pas en tout compte.
Non, c'est intéressant, même quand il parle de ça, genre, oh, c'est donc bien grave ce qui est arrivé.
C'est
oh non, ça va, tout est pas bien. Ok, mais venez dans la piscine, tu sais. C'est tellement plus du tout en même temps.
Puis on est dans un monde sans Rosemary's Baby, on est dans un monde sans le Polanski qui se ramasse en Europe, on est dans un monde que... Puis c'est sûr qu'il l'aborde pas parce que ça ouvrirait plein d'autres choses qu'il veut clairement pas aborder.
Non, c'est ça.
Mais c'est un peu ça aussi, est-ce qu'on va pas perdre la... Est-ce que c'est pas un refus d'aller dans cette l'ombre, en fait, qui va planer sur Hollywood après ça?
Ouais. Mais c'est ce qui en fait quelque chose d'un film éminemment nostalgique, au sens où on fait juste baigner dans cette version idéalisée de Hollywood et de ce qu'elle aurait pu être potentiellement s'il n'y avait pas eu tout ça.
Mais en même temps, on ne voit pas qu'est-ce qui arrive après.
Non, mais on peut l'imaginer.
Ouais, mais c'est ça. Puis c'est un film aussi qui finit par être immature dans sa nostalgie parce qu'il refuse la désillusion des années 60, puis il refuse justement le fait qu'on passe à autre chose.
Puis est-ce qu'il y aurait un Tarantino dans un monde comme ça?
Non, c'est ça
qui est paradoxal.
Ça, c'est intéressant.
Ouais, il a fait son propre Time Traveler Paradox.
Ouais, c'est exact.
Est-ce qu'il y aurait Tarantino sans Polanski? Je suis pas sûr.
Ben, il y aurait pas Tarantino sans toute cette époque-là.
Non,
cette époque
c'est
troublée-là.
C'est dans un monde avec cette version-là des faits, Tarantino n'existerait pas. Et il l'a effacé lui-même.
C'est ça, le grandfather paradoxe.
C'est ça, il est coincé total.
Puis tu es ton propre grand-père.
Voilà, on est coincé dans une loupe pour toujours.
Ben c'est presque spécial que ce soit son 9e film. Ça aurait fait un très bon 10e film. Dans le sens, je peux plus faire des films. Genre, je me suis auto-effacé. Je vais faire une synthèse, je vais faire Hollywood. Voilà, j'ai fini. Mais là, genre, je me demande si comme son prochain film va pas justement aller dans la noirceur hollywoodienne, genre faire les années 70. Je sais pas ce qu'il va faire après ça.
Tarantino in Space, man.
Star Trek.
C'est pas Star Trek, quoi, c'est
Tarantino in Space.
Il y a Kill Bill 3 qui est en...
Ouais, dans mais ça...
Ça, qu'on ferait pas, je pense.
Ça, j'y croirais quand je serais en train d'écouter le générique de
Kill Bill 3 dans l'espace.
Star Trek.
What?
Ouais, quand ça va avec Mathieu, ta carrière, là, je veux dire. C'est ça, je le prendrais quand même. Mais pas dans son 10e film, comme un film à part spin-off.
Oh, je serais tellement heureux.
C'est Kill Bill.
Non, mais on s'entend qu'il va faire un Soderbergh, là. Je veux dire, il va se ramasser à juste faire autre chose. Il va se mettre à faire de la télé sans arrêt.
Mais ça, il l'a dit.
C'est ça. C'est un film assez logique.
Qu'est-ce que ça
aussi
va changer, au fond, là?
Ben, c'est le fun de spéculer sur le.
Ouais.
Ben, ouais,
parce que c'est ça, quand tu regardes Once Upon a Time, moi, c'est ça, j'en sors beaucoup avec un truc de. J'ai pas l'impression qu'il a fait le film que ça a tenté de faire. J'ai pas. Tu sais, il y a une amertume de gaspillage si on considère que ça. Tu sais, son. Ça. Il y avait 10 balles dans son fusil, tu sais. La 9e, elle est un peu tombée dans le béton, tu sais. Je suis comme, ah, fuck,
Mais moi, justement, moi, ça me réconcilie sur le fait qu'il va prendre sa retraite, parce que si son dixième est pareil, moi, je suis comme, vas-y, go, go.
Parce que rien à nous montrer, maintenant.
Non, parce que avant de voir Once Upon a Time in Hollywood, j'étais comme, non, tu prends pas ta retraite, là. Chaque film de Tarantino, pour moi, est un événement. C'est comme chaque film de Paul Thomas Anderson. Tu sais, il en a fait un ou trois, quatre ans, puis c'est comme, ça sort, puis tu penses juste aller le voir, puis t'arrêtes pas d'en parler quand tu l'as vu. Puis là, finalement,
t'as parlé plus de Mandy que Once Upon a Time in Hollywood dans ta vie, là.
Définitivement, oui, définitivement. Mandy.
Mais je sais pas si c'est un signe que ça va être, que le suivant serait similaire. Moi, j'ai l'impression que c'est le sujet, en fait. Mm.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Il y a pas de distance par rapport à ce sujet-là.
Non, c'est ça. Il l'aime trop, puis il y a un amour absolu. C'est ça que j'ai aimé dans le film, là. On sent vraiment qu'il a aimé chaque seconde qu'il a filmé.
Mais ça, on le sent, oui.
Oh, il y a toujours du fun,
c'est,
là.
C'est ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'écouter ce film-là, mais c'est vrai que c'était pas un film très rushant comparé à ce qu'il était habitué de nous faire.
Puis c'est ça qui est intéressant. J'avais une conversation avec un professeur hier qui me disait que l'idée de le situer à 69, c'est un leurre. Mm. Puis ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de lire le film comme étant un film sur 2019. Mm. Et que moi, j'ai encore besoin d'un peu de recul, peut-être probablement une deuxième écoute pour être capable de faire cette lecture-là, mais que le film est en train de parler de maintenant plus qu'il parle de...
Mais si c'est un film qui parle de maintenant, un peu comme Hateful Eight qui parlait aussi de maintenant, si c'est un film qui parle de maintenant, c'est vraiment pas le fun ce qu'il dit, je trouve.
Ben,
dans le sens que ses conclusions sont comme pessimistes. Non, mais tu sais, je veux dire, dans le fond que Hateful Eight, ça laisse pas un goût amer dans la bouche parce que il y a un constat négatif, mais alors que là, on dirait que ce constat négatif. Tu sais, j'ai l'impression que ce qu'il met de l'avant, tu sais, c'est un peu bizarre que s'il parle de 2019, qu'il mette en scène avec amour cette vision-là.
Peut-être qu'il met 69 avec amour, mais moi, je crois pas fondamentalement que Tarantino a des belles choses à dire à propos de notre époque.
Ouais, mais justement, c'est pas trop, il y a pas trop de légèreté puis de...
Ouais, peut-être.
C'est ça qui est spécial. Il y a vraiment comme une dualité dans ce film-là. On dirait qu'il essaie de faire deux choses à la fois et je sais pas à quel point ça fonctionne. Comme lui-même critiquait, j'ai vu ça en cinéma avant de voir le film, il y avait des entrevues, des petits bouts, puis il se plaignait justement des films qui sont sans arrêt des remakes ou des suites comme Disney le fait beaucoup en ce moment. Et c'est quand même assez drôle quand on voit son film après parce que, ok, c'est une nouvelle histoire, mais c'est... et que ça joue excessivement sur l'imaginaire de ce qu'il y avait avant, sur la rétromanie.
Ouais. Ben, tu sais, quand on parle de cette époque, tu sais, on parle de ceux dont on a essayé de se débarrasser, tu sais, l'espèce de sexisme, racisme systémique à Hollywood dans la représentation, une représentation plus diversifiée, un peu tous ces stéréotypes dont on essaie de se débarrasser. Si Tarantino parle avec ce film-là de notre époque, lui, il regrette cette chose-là. C'est ça l'impression que j'ai. C'est que si on dit que c'est un film sur notre époque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut remettre ces gens-là à l'avant.
Alors qu'il a fait le contraire dans son cinéma.
Oui, effectivement.
Exact, c'est ça. Il a fait de la vraie représentation depuis longtemps sans qu'on le force. Là. Je veux dire, Jackie Brown, c'est il y a longtemps. Là.
Non, mais c'est là où je trouve qu'il y a comme il y a une impasse, il y a quelque chose de très inconfortable sur le fait que c'est le premier Tarantino qui n'est pas produit par Harvey Weinstein. C'est le Tarantino avec le moins de femmes fortes.
Il y a quand même le personnage de la petite fille qui est quand même... Le problème, c'est que ces personnages sont tellement problématiques et sont intéressants parce qu'ils sont problématiques. Peut-être qu'ils voulaient justement continuer à montrer de la toxicité et montrer des problèmes. Les personnages problématiques et pas aller vers les personnages forts. Les personnages forts, il y en a moins à en dire jusqu'à un certain point. Parce que je sais pas si le personnage de la petite fille, je l'ai adoré durant le temps qu'elle était enceinte, mais je sais pas si elle aurait tant eu à être là.
Non,
il n'y aurait pas plus loin. Non. Mais sinon, la cascadeur.
Zoé Bell.
Ouais, Zoé Bell qui est là pour être un peu une mégère. T'as aussi la femme de. C'est les femmes dans ce film-là.
Ouais, mais les hommes sont assez.
Je préfère les personnages féminins que les personnages masculins dans ce film-là.
Ouais, ils sont. C'est
à choisir là, de loin.
Tu t'identifies pas à eux, là.
C'est ça.
Non, absolument pas, mais.
Tu sais, Tarantino, il a toujours fait des personnages féminins super intéressants. Puis c'est pour ça que pour moi c'était pas toujours aussi évident de dire que il est misogyne ou il n'est pas une femme ou pas. Mais cela étant dit, ce qu'il fait des fois avec ses personnages féminins, on dirait qu'il s'oublie un peu. Puis aussi quand on sait derrière les scènes ce qu'il fait avec ses actrices, c'est le fait qu'il est genre tenu à étrangler lui-même Diane Kruger sur le set d'Inglourious Basterds, le fait qu'il a voulu étrangler lui-même avec la chaîne Uma Thurman dans la scène. Oui. Puis tu sais comme tu sais ces affaires là, puis t'es comme ok mais c'est un peu comme cringy. C'est peut-être que genre t'es bon pour faire des peut-être que t'aimes tes personnages féminins, puis peut-être que t'aimes les femmes, mais peut-être t'as un rapport un peu creepy, be weird avec, avec les femmes.
De manière générale, c'est clairement sadique.
Fait que comme là, il aurait pas fait de personnage féminin fort pour pas tomber dans le piège de vouloir en étrangler une.
Ben, écoute,
c'est super.
C'est très twisted.
Je sais pas si j'irais jusqu'à.
Ouais, ben, de toute façon, je peux
pas. Non, mais tu sais, il aime, comme tu dis, il y a un sadisme, tu sais, je veux dire, dans le personnage de féminin dans Hateful Eight, c'est un personnage vraiment très très bon, vraiment bien écrit, mais il s'amuse aussi à la torturer, à la bâcher, puis
ouais, mais il fait ça quand même avec beaucoup de personnages masculins aussi.
C'est ça,
aussi,
que c'est un sadisme assez généralisé.
C'est aussi. Ça, ouais, c'est vrai. Il y a le sadisme, c'est un rapport spécial.
Mais il étrangle pas ses acteurs
sur le set, par contre.
Il y a quand même la sodomie dans Pulp Fiction, à une époque où c'était quand même assez rare au cinéma, autant que je sais, parce que le cinéma est quand même assez grand public.
Est-ce que c'est lui qui a sodomisé
Je veux pas savoir ça.
Là, c'est moi qui fais le troll un peu.
Je veux pas savoir ça. Mais je pense qu'un des autres problèmes par rapport au personnage féminin, c'est que le film a été beaucoup vendu comme un personnage avec trois personnages principaux, dont un qui était Sharon Tate. Je veux dire, quand on regardait les affiches, j'avais vraiment l'impression, puis quand il a commencé à séparer les scènes, je suis sûr qu'on allait avoir une part égale. Ça, c'est vraiment, ça m'a aidé de le revoir, parce que j'ai vu, ok, au final, si le personnage n'a pas des scènes très intéressantes, c'est aussi qu'il est beaucoup moins filmé. Au final, il est assez, je veux pas dire anecdotique, mais il est très contextuel. Il apparaît parce qu'il est dans le camp.
Presque aucune ligne.
Je sais. Mmh.
Mais c'est ça, il y a beaucoup de critiques qui ont adressé ça à Tarantino, puis Margot Robbie a répondu à sa place parce qu'il voulait pas, commenter. Là. Mmh. Puis elle a dit que le personnage, en fait, ce qu'elle avait à dire, elle avait pas besoin de le dire avec des mots. Ce que je trouve qui est très juste, considérant sa performance, qui était une magnifique performance, qui traduisait beaucoup, justement, de passion puis d'amour pour le cinéma. C'est comme le personnage, il voulait vraiment nous faire tomber en amour avec, puis avoir un peu cette tension-là, parce qu'on savait que dans la vraie histoire, elle meurt à la fin. Fait que, tu sais, je pense que, mais c'est très accessoire si c'est ça que le personnage de Sharon Tate. Comme, c'est pour ça qu'il était là, parce que c'était juste pour construire une tension dramatique qui allait être twistée à la fin pour une autre fin. C'est, au final, c'est très accessoire, puis c'est très je trouve que c'était très un peu de pas bien utiliser les personnages pour si c'est juste pour faire une twist pour surprendre ton auditorat là.
Non, pour moi c'est plus en hommage, surtout qu'il dit qu'il a bâti le film comme ça, c'est peut-être pas un bon choix.
Ouais, mais je veux dire, tu peux faire un hommage puis te tromper quand tu le fais, puis le faire d'une mauvaise manière.
Mais c'est aussi, même il a dit en entrevue qu'il voulait pas faire un personnage à la Tarantino. Ça, je sais pas, même si c'est pas une bonne chose, jusqu'à un certain point, à quel point ça l'aurait déformé justement de lui donner ses répliques comme.
Je trouve que ça a l'air awesome.
Mais moi, le fait qu'elle parle pas trop, ça me dérange pas vraiment.
Ça me dérangeait pas non plus. Non.
Même que, tu sais, quand on y réfléchit, la plupart des films de Tarantino, puis c'est encore plus vrai sans doute dans lui, sont vraiment basés sur l'espèce de dichotomie très classique de villain, de héros-villain, où les héros ne parlent pas, et puis c'est eux qui survivent, puis les villains parlent sans cesse, puis c'est eux qui meurent.
Au revoir, Shoshana!
Mon Dieu,
c'est super classique, là, parce que c'est toujours le héros dans la comme mythologie est toujours dans l'action, puis le vilain est toujours en train de discourir. Puis, fait que le fait qu'elle parle pas, la met sur comme la fait sortir justement de cette espèce d'ensemble de personnages tarantiniens qui ne peuvent que mourir, tu sais, parce qu'ils sont tout le temps en train de parler. C'est comme collectivement, sont tellement toujours en train de discourir que finalement ils peuvent. Puis alors que, tu sais, The Bride, elle parle pas beaucoup, en fait, dans Kill Bill. C'est jamais elle qui a comme des longs discours.
Non, jamais.
Tu sais, puis on le remarque pas vraiment dans son cas, parce qu'on la voit agir de manière beaucoup plus efficace.
Puis elle se met très bien en scène. Quand elle se met en scène, la scène où elle fait semblant d'être une Américaine est très drôle, là, mais...
C'est ça. Quand elle parle, c'est rarement comme pour être elle-même, tu sais. Puis Sharon Tate, le fait qu'il... C'est drôle, cet aspect-là m'a moins dérangé, parce que je trouve assez intéressant qu'il est vraiment dans la vie quotidienne pure, tu sais. Puis ça, il y a quelque chose de très Tarantino là-dedans, au fond, parce que c'est un rythme qui est complètement anti-cinématographique, tu sais. Puis d'une certaine façon, je trouve que ça marche plutôt bien, mais bon, après...
Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'avais aussi l'impression que ça faisait très description des personnages féminins dans un roman écrit par un homme, là. Donc, c'est une version très idéalisée. C'est juste une espèce de beauté un peu classique, un peu éthérée.
C'est pas un personnage.
Qu'on admire de loin, c'est pas un personnage.
C'est un concept.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est ça, c'est c'est ça, et, ou stress que ça, c'est. Sharon Tate. Sharon Tate, c'est ça dans les livres d'histoire. Ouais. C'est une femme qui a été.
Qui a pas, qui a pas pu exister, en fait.
Qui a existé dans son absence, qui a existé dans sa disparition, mais qu'au final, il y a moins trois films avec Sharon Tate.
Qui existait avec la tragédie, mais rien d'autre.
C'est ça, puis il y a toute la façon de traiter les Manson Murders, c'est toujours en lui enlevant une subjectivité, en lui enlevant. Et c'est pas une. Malheureusement, historiquement, Sharon Tate, c'est pas une personne.
Ouais. Ça aurait été le fun que ce soit elle qui ait le flamethrower.
Oui, c'est ça. C'est pour ça j'aurais aimé ça que ce soit un personnage.
C'est elle qui vient les sauver, en fait. Ça aurait tellement été comme...
Ça aurait été ça plus cathartique du point de vue historique.
Ou que, tu sais, ça fait comme toute l'idée... Il y a souvent... Pas exclusivement, mais il y a beaucoup de descriptions de la relation qu'elle a avec Polanski, de Polanski et l'ingénu. Mais ça aurait été le fun, comme l'actrice qui regarde un génie formel, tu sais, puis qui est juste comme that guy, ça c'est un artiste, ça c'est, oui, ça m'intéresse. Puis là, tu fais sortir le flamethrower, puis là, the full, ça serait malade. Ouais.
Ouais, mais c'est quand même intéressant la manière dont le personnage pas personnage est traité, parce que on lui redonne une quotidienneté, on lui donne comme tout un aspect très émotif, émotionnel. La scène du cinéma où elle se regarde dans le film, là, c'est magnifique comme scène.
Elle regarde Sharon Tate, en fait.
Elle regarde pas Margot Robbie, elle regarde le film où jouait Sharon Tate. Elle dit, c'est moi qui est dedans. Puis
mais si t'enlèves l'affrontement, puis t'enlèves complètement cette scène-là, puis que tu boucles avec la scène où Leonardo DiCaprio rencontre Sharon Tate, t'as ta fin, t'as un film. Pas de film, là t'as deux films qui comme fit pas. Mais t'enlèves l'espèce de massacre, puis tu fais juste une coupure, puis même t'as comme la scène du ranch qui est un peu une espèce d'inquiétude, puis qui est une espèce de malaise, mais qui fonctionne en tant que tel dans le film. T'as ton film.
Ça serait beaucoup plus osé, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Ça serait plus courageux comme
exact.
Puis en même temps, c'est drôle, parce que en parlant de cette figure-là qui est Sharon Tate, il a fait l'inverse avec Charles Manson. Charles Manson est toujours dans le centre de l'histoire, puis là, il l'est pas.
Non, c'est ça.
Il a fait d'une absence une présence, puis il a fait d'une présence une absence.
Mais Charles Manson est aussi une absence même dans l'histoire. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui en fait un personnage aussi fascinant, c'est que c'est pas lui qui va tuer, tu sais.
C'est
lui qui.
Mais le spectre de Manson est toujours là, puis là dans le film.
On le voit qu'un petit moment, puis je l'avais même pas reconnu. J'avais pas vu des images de lui récemment, donc je l'avais même pas reconnu quand on le voit. Apparemment, beaucoup de ses scènes ont été coupées.
Oui, c'est ça. Par exemple, il a tourné.
C'est ça, j'aurais été curieux de voir quel film ça aurait pu donner.
C'est ça, j'étais pas courant.
Tant qu'à faire une uchronie, j'aurais aimé ça pratiquement qu'il vienne, genre qu'il se brûle lui aussi au lance, mais lui au moins ça aurait été plus cathartique.
Ben c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Ça aurait été de tuer le gros méchant.
Ben c'est ça, parce que je veux dire, jusqu'à un certain point, on le disait tout à l'heure, c'est les brainwashers, je veux dire, c'est assez triste de voir à quel point Brad Pitt rush pas à les frapper à répétition. J'étais triste pour eux jusqu'à un certain point, puis pourtant ils ont de l'air agressifs, ils ont de l'air violent.
Tex? Ouais, mais Tex, elle mérite.
Oui, mais il mérite pas dans le film.
Non, je sais.
Exact.
Il mérite dans l'histoire. Non, mais c'est pour ça que c'est
tellement... C'est moi qui m'aime des ranchers, je m'excuse. Oui, non, absolument. Question bizarre, parce que moi, je suis pas capable d'arriver à une réponse par rapport à ça. Est-ce que ça vous a dérangé que les actrices sur le ranch, c'était comme la fille de Kevin Smith, la fille de Bruce Willis, les
je savais pas.
Les enfants
non,
de
non, moi j'ai trouvé ça intéressant.
Non, ça m'a pas dérangé.
Moi, c'était pas que ça me dérange, c'est qu'est-ce que t'essayes de dire là?
Mais c'est les enfants d'Hollywood. C'est la
fille
c'est
de Motorman aussi.
C'est des zombies qui.
Ben jusqu'à un certain point, ta réponse, Jim, je pense qu'ils sont dans la voiture puis ils discutent qu'ils vont tuer les stars. Ils ont été comme on était éduqués par Hollywood. Hollywood est violent, ils ont rendu violent, on va les tuer.
Oh!
C'est assez violent quand tu vas dire ça, mais ça.
Mais il veut détruire la.
Ouais.
De toute façon, le film essaie de nier la nouvelle génération, fait que. Le fait d'en faire des hippies qui deviennent violents montre que la nouvelle génération tourne à vide, puis que je m'ennuie tellement de l'ancienne, puis que si l'ancienne avait gagné, ça serait beaucoup mieux.
C'est pour ça que c'est tellement.
C'est bizarre.
C'est rétrograde au max, ce film-là.
Non, mais ça
ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude, c'est ça aussi que je trouve plate. Là. Je pense que c'est rétrograde sans qu'il s'en rende compte.
Non, c'est ça, moi aussi. C'est pour ça que je pense que le film est quand même le fun, mais dès que tu commences à trop l'analyser, bien l'analyser, ça, il devait y avoir deux discours qui fonctionnent pas ensemble, puis là, c'est problématique.
Conséquemment, aussi, son plus grand succès commercial.
Oui, mais ça, c'est spécial, ça.
C'est weird aussi.
Ouais, mais après, c'est peut-être le plus accessible, tu sais.
Mais ça les tue.
Je pense pas. Je pense à la plupart du monde que je peux même pas tant si bien que ça, Charles Manson, encore moins.
Non, mais c'est accessible parce que ça n'a pas l'espèce d'aura.
c'est pas plus accessible qu'Inglourious, pas plus accessible que Django.
Que Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est quand même très accessible. Ouais. Là, puis...
ben, ça dépend pour quel public. Pour un public qui est sensible à la violence.
Il y en a qui pour les films violents, j'ai souvent entendu ça à la base. Dès que c'est un peu violent, puis effectivement, tu leur fais pas écouter du Tarantino. S'ils disent dès que c'est un peu violent, genre je suis pas grave à regarder, je suis pas capable. Effectivement, c'était pas le modèle de leur faire écouter Kill Bill.
Ouais, mais l'idée, c'est que c'est parce que c'est Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ensemble.
C'est juste aussi, c'est comme la grande époque d'Hollywood, ouais, mais... là, c'est très American Dream. Là,
c'est ça.
Je pense pas que des gens qui chillent à Hollywood pendant 2h30, c'est accessible. Là.
Non, mais c'est accessible pour... Disons que c'est plus facile de convaincre des gens d'y aller avant de l'avoir vu. Là. Je dis pas que je dis pas que tout le monde va l'aimer, right. Là, c'est juste que c'est...
Ouais.
C'est plus facile de convaincre quelqu'un d'aller voir ce... Quelqu'un qui aime pas du Tarantino d'aller voir ce film-là. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle on l'a moins aimé aussi, tu sais.
Mais je pense que moi, ma théorie, c'était un peu la manière dont ça a été publicisé, au sens où ça a été publicisé comme un film sur les massacres Manson.
Ouais.
Alors que c'est pas un film qui parle de tout ça premièrement.
Ouais, ou c'est racoleur, puis...
C'est ça, puis tu sais, dans les dernières années, il y a eu beaucoup, justement, une grosse popularisation des films sur les soirs en série et les séries sur les soirs en série. Mm-hmm. Donc, je pense que ça a peut-être aidé à un certain succès commercial, au sens où les gens voulaient aller voir un film sur les Manson. Puis... peut-être qu'ils ont été déçus, peut-être qu'ils ont bien apprécié leur expérience, je sais pas, là, mais à date, son métacritique, c'est un des meilleurs, des Tarantino les mieux cotés.
Moi aussi, c'est un gars surpris.
C'est ça, là. Donc, je pense que ça, il y a comme plein de facteurs qui ont peut-être joué sur ce succès commercial-là. C'est un film d'été. C'est comme quand il est sorti. C'est ça, Hateful Eight, quand c'est sorti en même temps que Star Wars, là, ça a pas bien. Ça a fait un peu. Il était pas content, le Tarantino.
Quel autre film a joué cet été, honnêtement?
Spider-Man.
Il y a Spider-Man, c'est ça.
C'est pas mal ça.
En même temps que c'est pas nécessairement toujours le même public, là.
Non,
c'est ça. Non.
Il y avait plus des trucs comme Le Roi Lion, des trucs genre de Disney.
C'est ça, t'avais les blockbusters. C'était classique, puis t'avais ce film-là qui était peut-être un film un peu plus intellectuel avec des gros guillemets ici, là, où ce que les gens pouvaient avoir un autre type de cinéma plus adulte. Ouais.
Le film de zombies de Jarmusch.
Ouais.
Qui était aussi une déception.
Putain. Ah ouais, vraiment. Ouais. Pour les mêmes raisons presque.
Ouais, c'est ça, genre.
Il était comme
vieux Chris qui s'en sac un peu. Là,
trop envie d'avoir juste du fun sans faire un vrai bon film. Juste comme ouais, moi ça m'a vraiment déçu aussi. J'attendais beaucoup ce film-là. Son film de vampire était tellement plus réussi.
Oui, c'était excellent. Mais c'est ça, c'est comme c'est l'été des grands auteurs qui font des films décevants.
Mais pour revenir rapidement sur le Jim Jarmusch, moi j'avais vu aucun Jim Jarmusch avant de voir son film sur les zombies.
Puis j'avais désolée.
J'avais eu beaucoup de plaisir en fait.
Mais parce que j'avais pas des attentes.
Parce que j'avais aucune attente. Puis je pense qu'il y a ça aussi avec le Once Upon a Time in Hollywood, parce qu'on est des grands fans de Tarantino. Mm. On a tout vu, puis on a tout apprécié, puis on a tout vu plusieurs fois. Mm. Puis on juge. Tu sais, je sais pas si quelqu'un que j'aime jamais vu un Tarantino qui est allé voir ça, le jugerait de la même manière que nous.
Sans doute pas.
Sans doute pas. Ouais. Parce que nous, on a des attentes, puis malheureusement, ces attentes-là, ils ont été atteintes, mais de manière très oblique et bizarre.
C'est presque transversal comme film. Il a presque pris une autre direction complètement.
Mais ça reste très Tarantino, à mon avis, parce que t'as les longues conversations qui mènent un peu nulle part, t'as cette construction de la tension là, qui est très bien réussie, même si des fois, il y a des petits anicroches dans ce film-là. Donc, puis à la finale sanglante, puis là, on est comme, ah, OK, cool, on est dans un Tarantino.
C'est bien tourné, c'est bien réalisé, t'sais, on s'emmerde pas.
Non, c'est ça.
L'écriture est pas aussi tight.
Ouais.
Non, c'est ça, je trouve que ça serait mon bémol. L'écriture, souvent, t'as l'impression qu'elle mène à rien, mais elle donne quelque chose en bout de ligne.
À l'inverse de cet épisode qui était absolument fascinant et qui se conclut tout de suite, merci Megan Nadar, merci Boris Lanvey, merci André-Philippe Lapointe, merci Hélène Després. Ça fait vraiment du bien d'en venir avec vous autres. On va l'écouter, Requin Chagrin et Soleil Blanc, mais je vous encourage à continuer la conversation autour de Once Upon a Time in Hollywood avec vos amis, tout ce que vous aimez dans la vie, votre famille, vos animaux. Vous serez potentiellement surpris par leurs opinions. On se retrouve la semaine prochaine.
Yes.
J'aime fort. Requin Chagrin, Soleil Blanc.
Soir.